Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de développement d'outils offensifs avec Aymeric Nasi. Bonjour Aymeric.
Bonjour.
Pour discuter avec lui, les contributeurs de Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff.
Bonjour.
Paul Amar.
Et bonjour.
Hervé Schauer.
Bonjour.
Et Vladimir Collat.
Bonjour.
Alors Aymeric, en premier lieu, est-ce que tu voudrais bien te présenter ?
Oui, alors je m'appelle Aymeric. Ça fait depuis à peu près 2010 que je suis dans la sécurité. Depuis à peu près 3 ans, j'ai commencé à vendre des logiciels pour Red Team, donc des logiciels axés offensifs, principalement pour faire de l'accès initial et de l'évasion de DR.
Alors, quelles sont les problématiques que vous adressez chez Baliskit ?
La première problématique, c'est déjà de simplifier la génération de payload. Je vais donner un exemple. En gros, chez nous, on génère la pièce jointe qu'on vous dit de pas ouvrir. Voilà. Donc, par exemple, le fichier Office malveillant, le LNK malveillant, ou l'ADLL, ou l'exe, ou voilà. Et on le génère d'une manière à ce qu'il ne soit pas détecté par l'antivirus ou le DR, afin que nos clients Red Team puissent l'utiliser et aller le plus loin possible pendant leur mission. Voilà. Donc généralement, les outils qu'on utilise donc sont des générateurs de payload. Et avec ces générateurs, généralement, on va créer un payload qui va servir à lui-même à lancer un deuxième étage, par exemple un implant de commande-contrôle. Et nous, on s'occupe pas de cette partie. Nous, on est vraiment sur la partie initiale. La partie commande-contrôle, après, c'est compatible avec tous les C2 qui existent. Il y en a plein.
C'est ce que généralement on appelle un loader ou un stager. C'est vraiment la première phase de l'infection, de la compromission, qui vise pas à faire de la persistance, mais juste à contourner toutes les mesures de sécurité afin d'exécuter quelque chose en mémoire.
C'est ça. Donc l'idée, c'est les payloads qu'on génère, il y a à la fois des capacités pour aider au social engineering, par exemple spoofer l'extension, des capacités d'évasion et des capacités pour soit télécharger, soit loader, soit lancer un shellcode pour lancer un deuxième étage en mémoire.
Ah, tu vas même jusqu'à permettre c'est-à-dire que tu n'embarques pas forcément le payload, enfin la charge utile, c'est que tu peux aussi aller la télécharger quelque part pour qu'elle soit ensuite exécutée en
ça.
Mémoire.
En fait, il y a plusieurs use cases qui sont possibles. Ça peut être télécharger, exécuter, ça peut être dropper une charge utile qui est comment on dit embed en français, qui est
embarqué,
en coquille,
intégré, inclus.
Voilà. Une charge utile qui est intégrée dans le payload, la dropper et l'exécuter, ou faire du DLL sideloading, ou simplement lancer un shellcode en mémoire. Enfin, il y a plein de scénarios qui sont possibles. Et l'idée justement, c'est qu'avec nos outils, ça te prend une minute, par exemple, pour générer un LNK qui va dropper une DLL quelque part et ensuite lancer un DLL sideloading sur cette DLL.
Et pour ça, t'as une application web, t'as un builder avec un exécutable qui te permet de faire ça en clic bouton. Ça marche comment ?
Alors en fait, il y a deux outils, MacroPack et ShellCodePack. Les deux se présentent sous forme de clients lourds, on va dire à l'ancienne. Hein. On fait pas de mode SaaS. Tu peux builder donc soit en ligne de commande, soit avec un GUI. Tu peux créer ton payload. Donc tu dis, je veux un lanceur de shellcode. Voilà le shellcode. Je veux que ça soit tel format. Donc par exemple, je vais choisir, un fichier Visual Studio malveillant. Voilà quelle méthode je veux utiliser pour lancer le shellcode. Et puis ensuite, il y a tout un tas d'options qu'on peut cocher en fonction de qu'est-ce qu'on veut obfusquer, quelle méthode d'évasion on veut rajouter. Enfin, voilà. Et puis après, pas mal de méthodes à choisir aussi niveau social engineering. Est-ce qu'on veut lancer un decoy automatiquement
Qu'est-ce que c'est un decoy?
Alors, un decoy, c'est en français, c'est un leurre, je crois.
Un leurre.
Voilà. Donc en fait, on peut lancer un leurre qui va faire croire à la cible que en fait un fichier légitime a été ouvert, alors qu'en fait en background on a une communication malveillante vers un C2 qui est lancé en parallèle.
Les techniques d'évasion, elles sont un peu toutes connues aujourd'hui, non ? Est-ce qu'il y a une sauce secrète dans ton produit pour parler français ?
Alors, Les techniques d'évasion, elles sont connues, mais souvent les gens se copient-collent entre eux. Et donc en fait, tu peux quand même assez facilement trouver des techniques d'évasion que personne n'utilise vraiment, on va dire, de manière répandue. Ça, c'est déjà une façon de faire. Et tu peux aussi après trouver des méthodes effectivement de manière privée. Donc c'est vrai que dans nos outils, on a quelques méthodes qui sont entre guillemets zero day. C'est pas des vulnérabilités, mais on va dire des façons de générer des payloads qui sont privés tout simplement. Voilà.
Et t'as pas peur que ça leak sur VirusTotal ou des choses comme ça, parce que ce genre de choses, ça reste privé jusqu'à ce que Hitmiser ou quelqu'un d'autre d'une blue team le trouve et sache pas que ce soit un produit commercial et l'envoie sur un VirusTotal ou autre.
De toute façon, c'est le risque est ça fait partie du jeu quelque part. Alors moi, j'incite mes clients à ne pas tester sur VirusTotal évidemment, mais ensuite quand ils sont en red team, ils envoient le payload chez leur client. C'est normal que le client, lui, puisse tester sur son EDR ou même l'envoie sur VirusTotal. Le payload, hein, pas le générateur. Le générateur, lui, doit jamais sortir. Mais le payload lui-même, forcément, ça peut arriver qu'il arrive sur VirusTotal. Est-ce que c'est leaké? Non. J'ai pas l'impression. En fait, j'ai l'impression que au niveau des éditeurs, tant qu'en fait, un vecteur n'est pas utilisé de manière un peu systématique par beaucoup d'attaquants, les éditeurs ne créent pas de mesures contre ce vecteur.
T'es jamais tombé sur un blog post d'un éditeur antivirus qui détaillait exactement la technique que tu utilisais?
Non. Alors, ça m'est arrivé. Alors, faudrait peut-être que je revienne en fait sur l'historique de comment je suis venu à créer le logiciel, parce qu'en fait, à l'origine, en fait, moi, j'étais pas dans la sécurité offensive. J'étais plutôt côté bleu. J'étais développeur au départ, donc et ensuite j'ai fait une double compétence développeur et sécurité. J'ai fait un peu de pen test, d'architecture, sécurité du développement, gouvernance. Mais j'avais toujours en fait la partie offensive qui était un peu ma passion, mais c'était pas mon travail. Et donc en fait, ce que je faisais, c'est que pendant que entre guillemets la journée, je faisais de la gouvernance, de la conformité et de la sécurité du dev, le soir, je développais des outils offensifs, je cherchais des vulnes. Et du coup, j'ai créé un outil open source qui s'appelait MacroPack, qui était un obfuscateur de macro Office et de script VB, donc HTA, les formats HTA, VBS, WSF, ce genre de formats-là. Cet obfuscateur-là, il était en open source. Au bout d'un moment, j'ai commencé à développer des méthodes beaucoup plus avancées, par exemple Trojan automatiquement un PowerPoint ou un... Enfin, des méthodes qui permettaient vraiment d'industrialiser la génération d'une attaque et des bypasses assez poussés. J'ai pas voulu les publier open source parce que je me suis dit que c'était trop dangereux. Mais j'ai quand même communiqué dessus en disant c'est la version pro. Et il se trouve que j'ai reçu des messages de pentesters qui me disaient combien ça coûte, est-ce qu'on peut te l'acheter? Et c'est là qu'en fait, en discutant un peu avec des amis, tout ça, je me suis dit mais en fait, peut-être que je pourrais le vendre. Et c'est comme ça que j'en suis venu à créer MacroPack Pro. J'ai arrêté de maintenir l'autre version. Et du coup, au début, j'étais à temps partiel. Et au bout d'un ou deux ans, j'en ai fait mon activité à plein temps. Voilà. Et donc, il se trouve que, une fois sur un article, j'ai reconnu du code à moi. Et effectivement, quand je suis allé regarder dans des bases de malware, je sais plus sur quelle base, c'était pas VirusTotal, mais j'avais trouvé un script HTA. Qui était utilisé par une campagne de, je sais plus si c'était du ransomware ou, enfin si c'était un acteur généraliste, hein, enfin c'était un groupe criminel généraliste, c'était pas une cible particulière. Et donc il y avait du code HTA, j'ai reconnu immédiatement que c'était mon code, mais par contre j'ai reconnu aussi immédiatement que c'était le code de la version community, c'est-à-dire que c'était le code de la version open source et le même code, je savais que je l'avais changé en fait dans la version payante. Donc en fait, ils avaient simplement pris la version open source que je ne maintenais plus déjà depuis 2 ans. Et ils avaient essayé de faire des choses avec. Voilà. Donc c'est la seule fois où j'ai vu, on va dire, une utilisation malveillante de ce que j'ai fait. Et c'était en fait sur mon logiciel open source. C'était pas sur la partie, c'était pas sur les logiciels pro.
Et être éditeur de logiciels offensifs. Légalement, est-ce qu'il y a des contraintes particulières? Est-ce que tu peux ne pas le vendre à certains pays? Comment ça se passe? Est-ce que tu screens les clients? Est-ce que tu dis, bah là, ça paraît un petit peu douteux, les personnes qui me contactent, donc je dis non. Comment tu fais justement tout ça?
Alors, oui, forcément. Déjà, j'avais arrêté, même avant de vendre, je diffusais pas tout, justement, parce que j'avais des peurs que des personnes utilisent un peu trop facilement ce que je publiais. Bon, déjà, il se trouve que les logiciels sont classés double usage, MacroPack et ShellCodePack, donc avec tout ce qui va avec comme restriction à l'export.
Du coup, là, l'arrangement de Vassenar, là, qu'est-ce que ça dit là, avec ça? On est en plein...
Et bien, justement, donc, ça veut dire que... donc si je veux vendre dans l'Union européenne sans limite, si je veux vendre aux États-Unis, Canada, Japon, enfin une liste de pays proches, on va dire, en fait il y a une licence générale à demander. Tu la demandes une fois et ensuite tu peux vendre de façon illimitée. Il faut simplement faire une déclaration de à qui t'as vendu et voilà. Donc ça j'ai fait cette demande une fois, donc c'est bon. Et après la partie, on va dire, un peu plus pénible, c'est ben tous les pays qui sont pas dans cette liste de pays amis très proches. Et ben pour chaque vente, il faut faire une demande d'export qui passe en conseil interministériel. Et parfois pour on va dire les licences les moins chères à un peu moins de 1 000 €, il faut attendre 3 mois. Et un conseil interministériel pour que la vente soit approuvée.
Pour 1000 balles, tu dois attendre un conseil.
Ben, en fait, je suppose que de toute façon, ils se réunissent et que ça soit 1000 balles ou que ça soit un logiciel d'une énorme boîte à 200 000, et ben, c'est dans le même conseil qu'ils vont décider.
Mais oui, c'est le double usage, c'est pas le prix.
Oui, c'est ça.
Oui, oui, mais quand tu rapportes ça au prix et au temps que toi ça te prend,
ouais,
au cycle de vente, etc., c'est.
Oui, ben dans ces cas-là,
un peu excessif.
Tu vas pas vendre.
Tu augmentes les prix.
Aux pays étranges. D'accord. Par lesquels il faut passer par cette procédure.
Bon, après, c'est loin d'être la majorité des pays. Hein. Le gros des clients, c'est l'Europe et l'Amérique du Nord, hein, et puis l'Australie, voilà, qui font partie des pays qui sont couverts dans la licence générale. Donc, il n'y a pas de problème là. Ceci étant dit, c'est pas parce que quelqu'un me contacte en venant d'Europe que je dis oui comme ça non plus. C'est-à-dire que il faut forcément vérifier que la personne elle existe. Enfin, voilà, j'ai quelques procédures. Je vais pas rentrer trop dans les détails, mais pour vérifier quand même qu'il y a une vraie entreprise, qu'il y a une personne, voir un peu à qui potentiellement peut être attachée la personne. Parce que il faut être honnête, il y a des, alors en fonction des périodes, mais je peux être contacté plusieurs fois par semaine par des groupes criminels qui veulent essayer de l'acheter. Donc c'est vrai que quand je vois un email qui commence par hey bro, how much, bon là c'est facile à prier, mais des fois c'est un peu plus vicieux. J'ai vu des groupes par exemple qui avaient été jusqu'à pirater des petites boîtes pour me contacter ou qui se faisaient des noms de domaine ou voilà.
Comment tu faisais pour détecter justement même en piratage une petite entreprise, comment tu faisais pour les détecter?
Parce que je sais qui sont mes clients. Tu veux, mes clients c'est soit une red team, donc un cabinet de red team très petit comme très grand. Toi, c'est des très très grosses boîtes qui ont les moyens d'avoir une red team interne ou une purple team ou un cert qui fait un peu de red team. Donc si tu veux, quand tu as une entreprise une poissonnerie en Italie qui me contacte pour un logiciel de red team, voilà, je sais tout de suite qu'il y a un problème.
C'est pas tout à fait.
Voilà.
Oui, pour du phishing, comme dit Joanne.
Et quand je regarde un peu la source de l'email et je vois du cyrillique, bon voilà, tu. Mais ouais, il faut être vigilant.
Tu m'as dit quand tu étais à Botconf qu'il y avait aussi une manière de s'exprimer et les gens qui n'ont jamais travaillé en entreprise, qui ont toujours été entre guillemets cybercriminels, n'ont pas certains codes.
En fait, généralement, au premier email, je sais si tu es un criminel ou un script kiddie ou si tu es quelqu'un qui travaille dans une vraie boîte. Et en fait, ces gens-là n'ont jamais été dans un milieu professionnel, donc ils ne savent pas écrire correctement. Enfin, ils ne savent pas comment on écrit quand on est dans un milieu professionnel.
Oh, tu dis ça, mais je vais faire le vieux con, mais certains jeunes...
Mais c'est pas parce qu'un mec te contacte en disant « Wesh bro » que c'est forcément un criminel. Hein.
C'est vrai.
Ouais, pas forcément, mais donc généralement, quand même, c'est assez formel quand même, quand on me contacte de manière... Même si ça peut être amical, hein, il peut y avoir des gens que je connais par des confs, enfin, je m'entends...
S'il n'y a pas une procédure par les achats où il faut s'enregistrer, fournir son RIB signé, son ciré en 3 exemplaires ou je ne sais quoi, c'est louche.
Et comment marche ta R&D, par exemple? Est-ce que tu es seul dans cette entreprise? Est-ce que tu as d'autres personnes? Comment tu fais pour te tenir à jour justement des techniques?
Donc j'ai commencé seul, les deux logiciels je les ai développés seul, mais là depuis un an on est passé à 2 puis à 3, donc ouais c'est une petite entreprise mais on grandit, J'ai pas fait de levée de fonds, donc tout ce qu'on se paye, c'est ce qui rentre, c'est ce qui sert à nous payer. Et effectivement, ouais, il y a pas mal de veille à faire pour se tenir à jour, parce que c'est un peu la course. En fait, bon, les gens qui utilisent mon logiciel, bon, ils veulent un gagner du temps pour générer des payloads un peu compliqués, et deux, il y a la partie évasion. Ils savent pas faire eux-mêmes. Nous, on fait que ça, donc on le fait facilement, mais eux, ils savent pas le faire. Et en fait, ça, là, c'est un peu la course, parce que quand tu fais de l'évasion, il faut courir un après les EDR, les antivirus, et en plus, il y en a plein. Il faut faire en sorte que ce soit eux qui courent derrière nous, plutôt. Voilà. Et deuxième problématique, c'est courir après l'OS. C'est-à-dire que Windows, régulièrement, en fonction des patchs, parce que nous, on s'adresse principalement à Windows, même si on prévoit de toucher couvrir d'autres OS plus tard, mais là on couvre que du Windows, et à Microsoft, régulièrement, d'une version à l'autre, d'un patch à l'autre, il va désactiver une fonctionnalité, ou peut-être il va rajouter au contraire des nouveaux formats qui peuvent servir de nouveaux vecteurs. Et donc voilà, il faut quand même pas mal se tenir aussi à jour de ça, et des fois pivoter ou adapter en fonction des décisions qu'a pris l'éditeur.
Mais c'est un travail énorme pour quelqu'un qui a été tout seul.
Ben oui.
Parce que la quantité d'EDR du marché, ça veut dire quand même que quand tu as trouvé une technique de contournement, elle reste valide très 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 longtemps sur plusieurs versions.
Oui, alors il y a des techniques qui... J'ai des techniques de contournement qui marchent depuis 3 ans et qui n'ont jamais été bloquées. Après, pour les EDR et les antivirus, je fais pas vraiment la différence entre les deux, hein, mais généralement, il y a quelques EDR et antivirus qui font, on va dire, qui sont le haut du panier. Et si tu arrives à les contourner eux, tu contournes tous les autres. Donc tu peux quand même shortlister les solutions que tu dois bypasser.
Et dans ton outil, tu présentes les choix par rapport aux techniques ou par rapport à l'outil que tu veux contourner, c'est-à-dire que est-ce que c'est vraiment je veux utiliser, je sais pas, un HTA ou un LNK, un raccourci Windows, ou est-ce que c'est plutôt je veux contourner tel éditeur ou tel éditeur
Alors il y a les deux. Ça c'est nouveau en fait. Si tu veux, à la base en fait par défaut, tu peux choisir le format, tu peux choisir la technique, les méthodes, tu peux vachement le customiser. Mais au niveau bypass, c'était un peu à toi de trouver. Alors que là, justement, depuis récemment, là, par exemple, la dernière version de Shellcode Pack qui est sortie il y a quelques semaines, en plus de tout ça, tu as un profil. Donc, tu as une liste déroulante avec une liste d'EDR et d'antivirus. Et tu peux choisir le profil et ça va automatiquement cocher toutes les options que j'ai testées qui bypassaient cette EDR-là. Donc, tu as les...
Ouais, ça fait gagner encore plus de temps.
Ouais. Voilà. Donc effectivement, tu as cette possibilité. Et après, tu peux aussi customiser. Si ça te va pas, tu peux faire autre chose. Mais effectivement, ouais, pour simplifier, j'ai fait une liste d'EDR. En sachant que c'est toujours un peu indicatif, parce que un EDR d'un client à l'autre, ça peut être configuré différemment. Et puis même la quantité de payload et la combinatoire de toutes les options est tellement grande que tu peux pas vraiment tout tester. Mais disons que voilà, l'idée c'est de fournir au moins un set d'options. Tu sais que ça bypass pour les payloads qui vont être le plus souvent utilisés par des clients.
Et donc tu disposes d'un certain nombre d'EDR antivirus pour pouvoir réaliser tes tests, ou tu le fais via, je sais pas, quelque chose comme VirusTotal ou...
Alors non, justement, j'évite VirusTotal. J'évite d'uploader les samples... que ce soit, j'ai mes propres moyens de tester, et j'ai aussi des remontées par des clients, c'est-à-dire que en fait on a un peu une communauté avec mes clients. Et ce qui est intéressant dans ce métier, c'est que mes clients, la grande majorité, c'est des gens comme moi en fait. C'est des red teams, c'est des gens qui sont passionnés par la sécurité offensive, et donc en fait, on se parle des fois entre geeks, entre guillemets. On n'a pas forcément une relation formelle comme on pourrait avoir dans d'autres business. Et donc du coup, mes clients, effectivement, ils me remontent. On a une communauté sur Discord, et mes clients, ils me partagent, par exemple, des bypass qu'ils ont trouvés sur tel EDR que moi j'aurais pas testé, par exemple. Enfin voilà.
Et justement, j'allais dire T'as un support, quel est le support que tu proposes? C'est à partir du moment où tu souscris, là les nouvelles versions que tu dis voilà, qui sont sorties il n'y a pas longtemps, est-ce que les personnes doivent repayer un abonnement ou en tout cas doivent repayer la licence au produit?
Alors moi c'est vraiment à l'ancienne, donc le logiciel c'est un client lourd, tu payes une licence annuelle et ça te donne droit à toutes les mises à jour pendant un an et le support via Discord ou par email, et au bout d'un an ça se désactive si tu renouvelles pas, voilà.
Ça veut dire qu'il y a un système de licence intégrée au produit, donc en fait ça fonctionne pas offline, c'est, tu dois avoir une connexion internet pour vérifier que ta licence est à jour, enfin c'est du mode SaaS en quelque sorte ou...
Non, c'est pas du mode SaaS, après toute la partie génération c'est complètement offline. Ça c'était quelque chose qui est important pour nos clients en fait, le fait que le logiciel ne fasse rien dans leur dos, la confiance c'est quelque chose qui est quand même important dans ce domaine.
Oui, c'est important. Je vois la tête de Nico et son sourire qui se dit « Ah, mais ça veut dire que localement, tu peux contourner la licence. » Mais ouais, je pense que ton modèle aussi se base sur la confiance. Et puis, de toute façon, les techniques évoluant, si tu n'as pas les mises à jour, au bout d'un an, entre guillemets, l'outil est plus forcément utile.
Oui, c'est ça. Bah, c'est-à-dire que les gens qui achètent le logiciel, ils achètent le logiciel, mais ils achètent aussi, entre guillemets, mon cerveau. Donc, le fait qu'on fasse des mises à jour tous les 2-3 mois, ça a quand même son importance aussi. Comme je disais, il faut quand même courir après le système, après les EDR...
En fait, je pense aussi à tous les outils malveillants faits par des malfaisants, comme dirait Hervé. Donc, en particulier, tout ce qui est C99 Shell, trucs pour PHP et autres, ou même tous les trucs de ransomware, tu sais, les panneaux de contrôle et autres. En fait, ils ont tous une backdoor du vendeur. Et donc, en fait, quand tu vas aller ransomwareiser une entreprise, la personne qui t'a vendu l'interface d'administration de ton ransomware, elle-même peut aller prendre sa soult ou récupérer les infos de l'entreprise, quoi. Et donc, l'avantage de se procurer des outils offensifs auprès de gens qui ont pignon sur rue et en qui tu peux avoir confiance, c'est que tu ne te retrouves pas avec toutes ces backdoors que tu as dans les outils un peu plus du marché gris, on va dire.
C'est ça. C'est pour ça que mes outils ne communiquent pas. Ils ne me communiquent pas chez moi. Les générateurs ne communiquent pas et surtout le payload ne communique pas. Et c'est vrai que des fois, ça m'arrive, hein, des clients qui me demandent est-ce que les payloads communiquent chez toi ? Il dit non, surtout pas, parce que y a rien qui communique.
Et est-ce que c'est comme IMICATS, tu fournis la règle YARA pour détecter ton payload? Est-ce que tu vois, il y a une sorte de panic button où en fait, instantanément, en cherchant 5 octets sur VirusTotal ou chez un client en faisant du hunting, tu peux immédiatement savoir où est-ce que il y a des payloads qui ont été implantés en utilisant ton outil?
Alors, moi, j'ai des moyens de vérifier, comment on appelle ça, des genres de... Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Vous savez, quand vous mettez le truc en filigrane... Ah, des watermarks, voilà. Enfin, c'est ça. Donc, moi j'ai des genres de watermarks que je peux décider de mettre, qui sont uniques par client, pour savoir si quelque chose a fuité.
Dans le générateur?
Ouais, dans le générateur et même dans les payloads. Okay. Voilà. Okay. Et ensuite... mais c'est pas de la communication, c'est purement du c'est juste, si jamais il y avait une fuite, je pourrais savoir d'où ça vient en fait, voilà. Sinon, le client lui-même, donc mon client, il a la possibilité, quand il génère certains payloads, il a une option IOC. En gros, il peut mettre une signature qui sera pas obfusquée, ce qui lui permet de, par exemple, de après donner un IOC à sa propre blue team pour trouver le payload facilement.
Et justement, c'est excellent en fait ça. Est-ce que tu as eu des personnes qui t'ont dit, pour entraîner des blue teams internes, on va essayer justement de répliquer des TTP par exemple de certains groupes, de certains attaquants, en disant bah voilà, on va prendre telle et telle technique, voir s'ils arrivent à le détecter, s'ils ont les moyens de détection. Est-ce que ça typiquement tu as eu ce type de cas d'usage ou peut-être pas encore?
Alors, mes clients le font. Après, ils me demandent pas forcément à moi. En fait, c'est-à-dire que mes clients, ils se disent, ok, ben là, aujourd'hui, je veux faire du sideloading, ou je veux créer un click once malveillant, ou je veux dropper une clé USB. Donc, c'est un peu eux qui décident. Et ensuite, éventuellement, ils me demandent quelles options, s'ils trouvent pas comment faire avec l'interface ou avec le manuel utilisateur, ils vont me demander des conseils sur les bonnes options à utiliser. Mais on me demande pas vraiment. Moi, on me demande plutôt, par contre, un client, il va plutôt me demander, par contre, qu'est-ce que tu recommandes pour bypasser tel EDR, par exemple.
Voilà. Ok. Tu parles de clés USB là, justement. T'as des payloads par exemple, ou des techniques là, par exemple, pour faire des sortes d'attaques là, avec du USB ou des choses comme ça ou...
Non. Non, c'est du classique. Par exemple, on a fait une vidéo récemment là-dessus. Tu peux, par exemple, générer un LNK qui va spoofer l'icône d'un disque et qui va, ou l'icône d'un PDF, et qui va lancer un leurre, en leurre un vrai PDF, et en même temps lancer en background un shellcode, et tu mets ce LNK sur une clé USB tout simplement, et tu laisses cette clé USB traîner quelque part. C'est du classique, quoi. C'est pas voilà. Sinon, les clients utilisent pas mal aussi du il y a les attaques par email, il y a les attaques par site web, donc on envoie un lien puis on télécharge le payload malveillant par un lien, et puis il y a pas mal d'attaques aussi qui se font par exemple par Azure ou par des genres de fichiers partagés en ligne, enfin des systèmes sur cloud, etc. Donc on pousse là, on envoie pas directement le payload par email à la cible, mais on lui dit d'aller télécharger quelque part une fois qu'on a établi un peu la confiance.
Ouais, c'est le classique fichier Office au sens large que tu stockes sur un SharePoint ou autre ou OneDrive et que ensuite le client va télécharger.
Ouais. Alors, ça peut être Office ou plein d'autres formats. Hein. Oui. Ça peut même être un.
Oui.
En fait, si le client il télécharge comme ça, ça peut être un .exe ou un script ou. Il y a plein de formats qui sont supportés, donc tu as l'embarras du choix. Ce qui permet aussi que certains clients utilisent nos outils pour en mode un peu assume breach. Donc ça veut dire une fois que le réseau a été pénétré, qu'on est sur machine, qu'est-ce qu'on peut faire? Typiquement, vous avez des gens qui ont des solutions de sécurité type application whitelisting. Donc ils vont bloquer par défaut tout un tas de payloads. Et c'est justement l'intérêt d'avoir des outils comme les nôtres qui permettent de générer plein de formats différents. C'est intéressant des fois pour bypasser ce genre de sécurité. Par exemple, générer un .inf malveillant, un .chm malveillant, un .wsf. Il y a plein de possibilités. Un .cpl. Windows propose une énorme palette de possibilités.
Et d'ailleurs, tu parles de Windows, mais est-ce que tu supportes aussi d'autres OS, Linux, macOS?
Alors non.
Ou même du mobile?
Non, pas encore. J'aimerais bien. Je pense que sur Mac, ça devrait pas tarder à... Je crois que ce qui est à la mode en ce moment sur Mac, c'est un peu du JavaScript. Donc, j'ai pas encore trop regardé. À plus long terme, j'aimerais bien faire du mobile, mais là, honnêtement, moi, j'ai pas les compétences en interne pour la partie mobile. C'est vraiment quelque chose qui a rien à voir. Donc, à voir. Mais Mac, c'est quelque chose que je voudrais faire dès que possible. Ouais.
En tout cas, moi qui ai connu le point pif sous Windows, je peux dire qu'il y a encore des trucs à faire en termes de legacy.
Et c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de concurrents ou très peu. De quelle nationalité?
Ben, alors, des concurrents, il y en a très très peu. Il y a peut-être deux, trois boîtes dans le monde. Et après, c'est assez difficile à comparer parce qu'on fait un peu tous, on fait pas exactement les mêmes choses et on rend pas public forcément les méthodes. C'est un peu compliqué de dire publiquement, moi je bypasse tel EDR et de donner le nom de l'EDR sans se faire attaquer par l'éditeur de l'EDR potentiellement. Donc finalement, c'est assez difficile d'évaluer le niveau des différentes solutions. C'est plutôt un de mes clients qu'il faudrait le demander.
Il n'y a pas de magic quadrant du Gartner qui compare les différents outils.
Il n'y a pas ça.
Bon, mais il y a un magic client qui achète absolument tout ce qui est publié sur toute la planète.
Il n'y en a pas qu'un. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui achètent tous ces outils-là. C'est vrai que les gens achètent généralement des outils de plus haut niveau, ben, tu vois, du Sliver ou du Nighthawk, donc des frameworks, des quadriciels, pardon, qui sont déjà tout intégrés pour faire de la Red Team de bout en bout. Ton outil se situe plus à un niveau intermédiaire, c'est de l'artisanat industriel, quoi.
C'est pas incompatible. J'ai pas mal de mes clients qui utilisent Nighthawk ou d'autres C2 commerciaux, mais qui utilisent Shellcode Pack ou Macropack pour les dropper. C'est-à-dire que l'implant généré par le C2 commercial, généralement, il va être détecté. Donc en fait, ils vont utiliser les logiciels Baliskit pour dropper le C2 commercial. C'est l'utilisation principale en fait de mes outils.
Comment tu as choisi ce nom?
Baliskit.
Mm-hmm.
Bah, c'était c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est mais en fait à un moment ouais je cherchais un peu un nom d'entreprise, quelque chose qui fasse un jeu de mots avec la balise, avec justement le, je disais ouais le côté un peu offensif, les vecteurs, les missiles, donc voilà la balistique, et puis le côté kit qu'on aille souvent dans dans les exploits, dans les malwares, on trouve souvent ce terme-là. Et c'est ma sœur qui avait trouvé le terme qu'à un moment je le cherchais. Voilà.
Bravo à elle.
Et quels seraient les conseils que tu pourrais donner à des gens qui souhaiteraient se mettre dans l'édition de logiciels, comme tu as fait ? Alors, pas nécessairement sur ce domaine précis, mais quelles sont les leçons que tu en tires pour créer, on va dire, une factory là, de logiciels, je sais pas comment on peut dire ça, mais je sais pas quelles sont les bonnes pratiques que tu peux arriver en, que t'en as tiré.
Ben alors je pense que si on parle purement en développement de logiciels, ça paraît peut-être évident ce que je vais dire, mais il faut éviter de développer quelque chose que personne ne veut. Donc avoir une approche qu'on appelle un peu lean startup, c'est ce que moi j'ai fait. Donc l'idée c'était à chaque fois de faire le minimum, de voir si ça intéresse les gens et ensuite de faire plus. Voilà, donc je dirais le premier conseil c'est n'en faites pas trop, parce que de toute façon vous savez pas si personne ne voudra de votre produit. Je pense que ça vaut pour toutes les startups.
Et commencer par une version communautaire pour se créer une communauté, parce que finalement c'est toi qui as enfin, tu as commencé de cette manière-là pour te faire connaître. Est-ce que sans ça, tu serais arrivé, à ton avis ?
Alors ça c'est il y a quelque chose de particulier quand même dans la sécurité. C'est que dans la sécurité en fait la confiance c'est quelque chose de très important. Et donc, en fait, au départ, mes premiers clients, ils sont pas mal venus à moi, toi, parce qu'effectivement, il y avait la version, entre guillemets, open source qui était là. Et aussi parce que j'avais fait des talks à des conférences, j'avais publié pas mal d'articles sur mon blog, etc. Donc, j'avais une espèce de petite notoriété sur le domaine. Et c'est vrai que ça, en sécurité... c'est quand même important, surtout offensif, c'est-à-dire que vous allez installer chez vous le logiciel offensif d'un inconnu, il vaut mieux avoir confiance.
Et comment ça se passe en termes de marché ? Parce que tout à l'heure, tu parlais de licence à 1000 euros, et je sais pas, je me dis que le marché, finalement, est pas énorme, parce qu'il n'y a pas pléthore d'entreprises qui font de la red team, donc comment est-ce que tu t'en sors ?
Alors, petite incise, je tiens à jour une liste des entreprises qui font de la cybersécurité en France et j'en ai recensé plus de 800 aujourd'hui.
Oui, mais c'est pas de la red team.
Ouais.
Oui, il y a un peu de tout dans ta liste.
Alors, effectivement, vendre des logiciels de red team, c'est une niche dans une niche. Mais bon, on est une petite boîte, donc ça suffit à nous faire vivre. Et il y a quand même encore pas mal de potentiel, parce que ça m'arrive quand même régulièrement à des conférences de parler à des gens qui sont pentesters ou red teamers et ils connaissent pas mes produits. Donc il y a quand même encore un gros potentiel, en France ou ailleurs. D'ailleurs, pour info, la France, c'est même pas 10% de mes clients, la France. J'ai pas commencé à vendre en France. Et c'est vrai que j'ai parfois des boîtes françaises qui me contactent, ils me contactent en anglais parce qu'ils savent même pas que je suis français, en fait.
Oui, parce que toutes tes communications sur Macropack, moi le premier, je pensais que tu étais américain. Et toutes tes communications sur Macropack que tu faisais, c'était en anglais. Et le nom, enfin, c'est vrai que tu donnais une image un peu d'américain. Et moi, j'étais persuadé que tu étais américain.
En fait, quand j'ai voulu me lancer, bah justement, tiens, pour revenir sur les conseils, quand j'ai voulu me lancer, on m'a dit la France, ça marchait trop petit. Et en plus, les Français sont un peu trop conservateurs. Donc, tu vises international, tu vises, voilà, effectivement, l'Amérique du Nord, c'est la moitié de mon chiffre d'affaires. Donc, tu vises international et les Français, ils suivront. Et effectivement, peut-être un an après, j'ai commencé à avoir les premiers clients français. Mais j'ai jamais cherché, en fait, à vendre particulièrement en France. Je suis jamais allé au FIC ou ce genre de choses, en fait.
Ok, peut-être que tu as un message à faire passer. Je sais pas, vous avez peut-être besoin d'investisseurs ou de...
Ah, t'as besoin de clients ? Est-ce que tu recrutes encore ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider ?
Alors, pour le recrutement, ça va. J'ai des bons canaux. Il se trouve qu'il y a quand même pas mal de gens qui, si on leur propose l'opportunité de faire du développement de malware de manière légale, ils sont plutôt contents. Et après, ben, moi, ce qui m'intéresse, ben, c'est qu'on soit peut-être un peu plus connu. Je pense que déjà, rien qu'en France, il y a un certain nombre de red team qui n'ont pas forcément entendu parler de nous, de red team ou de pentest ou de cert, purple team, etc.
Non, mais là, ça va être corrigé. Hein, avec nos limites sécu, c'est bon.
Et puis, si tu viens aux conférences, ben, comme tu l'as fait à BotConf, tu peux aller à Stick également. Tu
ouais.
Tu sens plus visible.
Ok, Emric, est-ce que tu aimerais apporter le mot de la fin ?
Oui, alors je voudrais dire que l'aventure va continuer. Nos logiciels actuels donc s'adressent au Red Team pour leur faciliter un peu la tâche, mais on est en train de travailler sur des choses un peu plus ambitieuses, notamment un espèce de lab clé en main pour faire de l'évasion et avec des EDR et des antivirus un peu du monde entier. Voilà, je reviendrai plus dessus dans les prochains temps.
Avec une certif à la clé.
En vrai, c'est quelque chose qui pourrait être envisagé, mais on n'en est pas là.
Ok, bah ça sera peut-être l'occasion d'un autre épisode de Nos Limites Sécu.
Merci.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.